Titan Mag, T comme Titan.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titan.
Et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Au micro, et de l'ami fidèle.
Laurent.
À la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. Flashback. Retour en arrière au mois d'août. Le Titan Mag pousse les portes de la galerie MG Art, dans laquelle deux artistes exposent, Bob Verskuren et Jacques Villet. L'un que nous entendrons en premier lieu, Bob Verskuren nous présente de grandes photographies de ses installations de wind painting, montrant des traces sur le sable faites de pigments naturels déposés de façon choisie. Le vent intervient en finalité et parachève l'installation en agissant sur le sable et les pigments. La magie se fait. Tout d'abord, Bob Verskuren, que vous pouvez suivre sur son site en pionnotant, donc Bob Verskuren, V-E-R-S-C-H-U-E-R-E-N.
En 1978, j'ai réalisé mon premier wine painting, pigment naturel répandu dans le paysage avec l'aide du vent. Ce fut un grand moment de rupture dans ma pratique artistique, moment fondateur de nouvelles règles qui seront à la base de tout ce qui allait s'en suivre jusqu'à aujourd'hui. Récemment, curieux de savoir où cela m'amènerait, je me suis demandé si j'avais bien tout exploré dans cet échange singulier avec le paysage et le vent, s'il n'était pas intéressant de tenter de reprendre cette voie. De surcroît, les techniques d'impression actuelles offrent la possibilité d'avoir des tirages plus grands, plus en adéquation avec les pigments semés dans le paysage, puisque les photos peuvent être maintenant reproduites au moyen d'encre pigmentaire, du pigment dans le paysage au pigment sur le papier.
Bob Verskuren a réalisé plus de 280 installations en Europe et ailleurs. Il élabore son langage plastique dans un dialogue intime et toujours renouvelé avec la nature. À partir de végétaux qu'il récolte, recycle, transforme, il crée notamment des installations éphémères en relation avec l'architecture et l'environnement qui accueillent ses œuvres. D'autres domaines tels que le son, dans son catalogue de plantes débuté en 95, les phytogravures débutées en 99, la photographie et les frottages sont aussi l'objet de ses investigations.
En direct de la galerie MGA à Zeebruges, sur le port de Plaisance, lieu tenu par Eliane Scoutet, dont le thème est Landscape 2, j'ai le grand plaisir d'entendre Bob Verskuren. Merci Bob de prendre ce temps qui vous est très précieux, on le sait, pour venir expliquer votre travail et vos œuvres. Ici, c'est Landscape 2, c'est le thème que l'on vous a demandé de faire. Vous-même, vous avez commencé votre travail par peindre. Vous êtes peintre et vous avez basculé, je vais dire, vers le wind painting. On va essayer de comprendre ce qui est caché derrière ce wind painting. Est-ce une autre façon de peindre ? Je me disais qu'il y avait peut-être pour vous un manque de place sur l'étoile et un besoin d'élargir son cadre. Et puis le wind painting, est-ce qu'il peut être considéré par le land art ? Est-ce que vous êtes un peintre reconverti au land art ? Bob, si vous voulez nous expliquer un petit peu tout cela.
Bien sûr. En fait, d'abord pour parler de wind painting. Donc au départ, c'est vrai que j'ai fait de la peinture jusqu'au moment où j'ai considéré que la peinture était la chose, pour moi, la chose la plus ennuyeuse à faire. C'est-à-dire que peindre n'implique pas le corps dans son entièreté. Donc on a généralement le poignet droit qui bascule un petit peu pour le pinceau, et puis le reste du corps est relativement immobile. Et je pense que ça, c'était notamment quelque chose qui n'était pas très adéquat pour moi. Et puis, en effet, il y avait aussi la question de l'espace, c'est-à-dire que quand on choisit une toile, même si on la veut grande, elle est toujours trop petite, on a envie d'aller plus loin. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il y a plusieurs éléments qui font que je n'ai plus du tout envie de faire de la peinture. Primo, parce que ça m'ennuie, c'est déjà une très bonne chose. Secondo, parce que la toile n'est jamais assez grande. Et puis, tertio, c'est que c'est immensément embêtant de laver les pinceaux après. Voilà. Ça, c'était évidemment quelque chose qui m'a fait agir. Et donc, je devais remplacer ça par autre chose, parce qu'il n'était pas question pour moi, après ça, d'abandonner tout acte de création. Et donc, en effet, j'ai été influencé par le Land Art, mais je me voulais aussi distancier de cela, parce que, en définitive, à l'analyse que je fais actuellement, je dirais, du Land Art, ce sont des gens qui ne se sont pas vraiment intéressés à la nature, qui se sont intéressés d'aller ailleurs que dans les espaces d'exposition. Et donc, ils ont pris, grosso modo, le paysage en otage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu réellement, je dirais, un dialogue avec la nature. Par exemple, les plantes sont pratiquement inexistantes des œuvres de Land Art. Et puis, ce qui les impressionnait beaucoup, ce sont plutôt les planètes. Donc, il y a un appel, je dirais, vers les planètes, le macrocosme. D'où la question d'avoir, par exemple, un observatoire qui a été fait par Robert Morris dans le désert. Le désert étant grosso modo un lieu neutre, mais aussi donc d'autres artistes comme Robert Smithson, qui était un des tout grands du Land Art, qui est évidemment quelqu'un d'extrêmement important. Je ne dénigre pas du tout ce mouvement-là, mais lui aussi, il s'intéressait à la question de l'entropie et tout ça, et il n'y avait pas un réel dialogue. Si on est, comme je le suis, et d'autres personnes étant plus ou moins dans la même mouvance, si on est intéressé par la nature, on ne va pas faire une coulée d'asphalte quelque part dans la montagne, ce qui a été fait par Smithson. Voilà. Alors, je dis souvent donc que je ne fais pas partie de ce mouvement du Land Art, et j'aime bien raconter que, en fait, généralement, ceux qui ont fait du Land Art, on peut prendre l'avion pour voir au mieux leur travail, parce qu'il est en général immense. Or, moi, j'ai commencé à faire avant tout, à part les wind painting, des installations à l'intérieur de bâtiments. J'ai dit, prendre l'avion pour aller voir mes installations à l'intérieur des bâtiments, c'est pas vraiment une idée géniale. Donc, voilà.
Et déjà là, pour ces installations à l'intérieur des bâtiments, vous preniez des objets, de la matière provenant de la nature.
En effet, oui. Mais ça a vraiment commencé par les wind painting que j'avais fait en 1978. À cette époque-là, j'avais donc fait des travaux avec des pigments répandus dans le paysage. Et actuellement, après avoir fait une longue série, et que je continue d'ailleurs, d'installations à partir de végétaux, à la fois à l'intérieur de bâtiments et à l'extérieur, je me suis dit que ça m'intéressait de voir s'il y avait moyen de revisiter cette approche que j'avais du wind painting, mais de façon un peu différente. Et donc, j'ai souhaité développer, en quelque sorte, une nouvelle technique pour arriver à ces résultats. Et au départ, je travaillais avec une sorte de cache, un gabarit sur lequel j'évoluais dans le paysage, et je répandais les pigments pour voir des lignes franches. Actuellement, je ne le fais plus, parce que je voulais me débarrasser, en plus, je dirais, de ce gabarit. Et donc, j'ai utilisé les traces de mes pas dans le sable comme étant l'élément structurant, donc qui va apporter une notion géométrique, je dirais, dans le paysage. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai réalisé ces nouveaux travaux.
C'est-à-dire que ces travaux sont très très grands. Moi, j'ai l'impression que même dans la peinture, plus on peint grand, plus c'est difficile. Et je voulais savoir comment vous faites cette approche dans la nature. Est-ce que vous travaillez l'idée, vous la dessinez, ou vous allez à un endroit, vous vous laissez imbiber par l'endroit, par la nature qui s'y trouve, et vous êtes parti? Comment concrètement? Il y a peut-être plusieurs méthodes aussi.
Oui, oui, très certainement. En fait, les tout premiers wind painting, je n'utilisais pas de croquis, je ne faisais aucun croquis, je partais et je commençais à intervenir. C'est vrai que ce qui m'a beaucoup intéressé et qui m'intéresse toujours, c'est le fait que je ne suis pas le seul à décider des choses, parce que le vent souffle dans une direction, et donc je suis absolument obligé de travailler en fonction de la direction qu'a pris le vent. Et puis d'autres éléments viennent évidemment aussi intervenir, évidemment, comme la structure du sable, si je suis dans un endroit où il y a beaucoup de coquillages, ou pas beaucoup, des choses ainsi. Et donc, actuellement, étant donné que mes pas sont là aussi pour structurer les choses, et que je partais un peu à nouveau dans un inconnu, puisque je n'avais jamais travaillé de cette façon, j'ai d'abord fait quelques croquis qui m'ont aidé, je dirais, à ne pas trop tergiverser quand je suis sur le site.
Couleur FM 97.1 avec Bob Verskuren, nous venons d'entendre Ruben Gonzalez dans Cite Contara de l'album Chanchulo. Ce qui veut dire que maintenant vous laissez vos pas, ce sont des traces dans le temps, et un temps qui est éphémère. Je ne sais pas quel est le temps qu'une œuvre peut rester, peut perdurer. Heureusement, là devant moi, je vois, vous avez la photographie. Vous prenez vous-même les photos de votre travail ?
Oui, je prends moi-même les photos. Et c'est vrai que la question du temps est primordiale dans ce travail, ainsi que dans tout ce que j'ai réalisé avec les végétaux, évidemment. Parce qu'il y a, pour moi, le rapport au temps est aussi donc signifié à celui qui regarde le travail, quand c'est en vrai, je dirais, qu'il y a urgence de voir. Parce que, par exemple, les wind painting, quand il y a marée haute, tout sera de toute façon effacé. Et même, je dirais, il suffit qu'un chien passe et court à travers le travail pour qu'il soit déjà altéré. Donc, il y a ce rapport au temps qui, pour moi, est un élément métaphorique de l'existence. C'est-à-dire que nous sommes dans un rapport à l'existence éphémère. Donc on sait bien qu'on n'est pas éternel, quoique beaucoup de gens veulent nous prétendre autre chose, mais on est quand même, en tout cas, avec cette question de l'éphémère. Et pour moi, ça ajoute donc une valeur dans le travail. Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me disent « Oui, mais il y a une contradiction parce que vous prenez des photos et par conséquent, le travail n'est plus éphémère. » Alors je dis « Quand vous prenez les photos des enfants, est-ce que les enfants, pour autant, ne sont plus éphémères ?» Non, évidemment. Donc il ne s'agit pas, pour moi, de mettre le travail dans le formol. Il s'agit plutôt d'avoir une photographie qui atteste de ce qui a été fait et qui elle-même a, je dirais, valeur, pour utiliser un trop grand mot, mais une sorte de valeur historique. C'est-à-dire que ça a été fait à tel moment, à tel endroit, et voilà, ça c'est plus ou moins en quelque sorte la preuve que ça a été fait. Et ça permet aussi, évidemment, de donner accès à ces choses. Mais forcément, la photo d'un enfant ne remplace pas l'enfant lui-même, et la photo d'un wind painting ne remplace pas le wind painting lui-même. Donc là, il y a en effet quelque chose qui peut sembler ambigu, c'est que la photographie reste le seul document, mais tout qu'on fait, c'est, je pense, tout le rapport à la photographie. Parce que les paysages qui sont photographiés par Jacques Villet, c'est la même chose. La photographie ne remplace pas le paysage.
Mais pour vous, comme pour Jacques Villet, vous forcez le regard, vous nous forcez à regarder. C'est quelque chose qu'on oublie. On traverse un espace et il faut un œil, je vais dire, d'artiste pour nous faire arrêter et dire « mais attention, il y a ça, on pourrait faire comme ça. » Cette branche, elle n'est pas inutile, on peut en faire un tas de choses. On peut détourner le matériel.
Moi, je dirais plutôt accentuer les choses. C'est-à-dire que je pense que dans mon travail, par exemple, il y a vraiment une sorte de volonté de donner à voir. Donc, j'espère, je dirais.
Pour vous, c'est ça votre message. En fait, le message, c'est une philosophie de vie.
En quelque sorte. Souvent, quand on me demande si j'ai un message, je dis non parce que je ne m'appelle pas Jésus-Christ. Et donc, je n'ai pas la prétention de penser que je peux sauver le monde et que j'ai un grand message à donner aux autres. Par contre, évidemment, partager des points d'interrogation, une sensibilité par rapport à la question, donc justement du temps qui passe, parce que le temps qui passe, c'est quelque chose d'assez particulier, parce qu'en définitive, on n'est jamais des passagers du passé, on n'est jamais des passagers du futur, on est toujours donc dans le temps présent qui est donc en continuelle progression, je dirais. C'est une sorte d'apologie du temps présent, en ponctuant ces moments-là par quelque chose qui appartient donc à ce présent fugitif lui-même. Donc chaque photographie est l'attestation d'un passage d'un présent à un autre.
Est-ce que tu en dirais autant de tes installations végétales qui, en l'espace de la durée de l'exposition, 15 jours, 3 semaines ou plus, se dégradent et marquent aussi une évolution du temps?
Oui, je crois que c'est totalement pareil. En fait, c'est, je dirais, quand j'ai commencé à faire les wind paintings, j'ai pas très fort réfléchi, je dirais. C'était quelque chose d'assez intuitif. Et j'ai considéré que le cadeau de me donner la possibilité de parler donc de ce présent, d'avoir cette espèce de métaphore de la vie, de combiner la question de création et destruction, puisque finalement c'est ça. C'est créer quelque chose qui se détruit par l'ensemble des éléments, par le temps qui passe. J'ai trouvé que c'était fabuleux. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique. Et donc, j'ai adhéré tout de suite. Et je n'ai jamais eu un seul remords par rapport à la peinture d'avant.
Vous faites en raccourci notre vie de naissance à la fin de vie.
Oui, en quelque sorte, il y a ce rapport-là, ce rapport aussi, je pense, par rapport au paysage, c'est-à-dire, on est ici, à cet endroit, que faisons-nous, nous, dans cet endroit et de cet endroit? Donc c'est aussi la façon dont on peut se comporter, je dirais, dans l'existence. Et donc, peut-être que c'est le bon moment de dire que j'utilise toujours évidemment des pigments naturels qui ne vont évidemment pas altérer ou polluer quoi que ce soit, et que c'est quelque chose qui pour moi est excessivement important. C'est d'arriver à faire quelque chose qui sera oublié par la nature, puisque rien ne viendra la modifier.
Comment vous vient l'idée du moment, de ce que vous allez faire? Vous restez là, vous êtes dans la nature, vous vous laissez imprégner et vous y allez? Est-ce que c'est un peu ça?
Pour les wind paintings, c'est vrai que je pourrais, avec un peu d'audace, faire un comparatif avec le musicien de jazz qui improvise. On est là et on n'improvise pas à partir de rien. On improvise à partir donc de gris, et pour moi la grille c'est le paysage, la direction du vent, le temps qu'il fait, la direction de la lumière. Tous ces éléments-là évidemment doivent être combinés, et puis là-dedans moi je dois m'inscrire avec mon travail.
Si vous êtes de bonne humeur, si vous êtes fâché, si... ça joue
oui, c'est certain. Et alors là, c'est amusant de parler de ça, parce qu'en fait, le tout début du wind painting a commencé par une colère de ma part. Parce que je n'avais pas l'intention d'agir avec le vent. Parce que j'étais naïf, parce que j'avais toujours travaillé dans mon atelier, à la maison, calmement, il n'y avait pas de courant d'air. Puis je m'amène et je veux peindre le paysage, et puis le vent vient me dire que je suis un minus par rapport à lui, quoi. Alors ça m'a fortement fâché, et en fait c'est par ce geste de fâcherie de répandre les pigments comme ça, lancer au vent avec, je dirais, colère, qui a fait que je me suis dit, mais ça c'est magnifique, ça peut vraiment être un point de départ de quelque chose. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que quand je fais une petite conférence, j'ai une petite page titre comme ça qui dit « La leçon du vent ». Parce que le vent m'a dit « Calme-toi, sois modeste, je suis là ».
Vous avez parlé de jazz et vous me tendez la perche parce que si l'on regarde, écoute votre site, il n'est pas effectivement muet. Pour vous, la musique est importante. Dites-nous ce que vous appelez le catalogue des plantes dans votre recherche sonore.
Alors, en fait, ça a commencé tout simplement parce que je faisais une installation avec des tiges annuelles, je crois que c'était des tiges annuelles d'érable, que j'avais coupé tous les nœuds. Parce que j'aime bien partir aussi de la structure de la plante plutôt que de venir avec un mètre et de dire je coupe à 33 cm et demi. Hein. Ça ne serait pas très logique. Et j'avais trié tout ça par longueur. Et je voulais disposer donc ces éléments-là sur un sol en béton pour faire une installation. Et quand j'ai déposé tous ces éléments, j'ai entendu une sorte de musique et je me suis dit, ça c'est absolument incroyable parce que je suis en train de faire une installation, mais sans vouloir, je suis aussi en train de faire de la musique. Et je me suis dit, il faut que je développe ce travail-là, donc le travail sonore. Et assez rapidement, la première chose qui m'est venue en tête, c'est le titre, catalogue de plantes. Et donc je me suis dit, je suis parti d'une espèce de postulat. Chaque plante a un univers sonore qui lui est propre, parce que chaque plante est évidemment un corps sonore résonnant. Et donc, forcément, si je prends une plante ou une autre, ce ne sera pas les mêmes sonorités. J'ai commencé à élaborer un travail qui consiste à faire des enregistrements donc, de sons que je puis moi-même émettre en triturant, on va dire, la plante. Frotter les feuilles, froisser les feuilles, casser une branche, etc. Et puis ensuite, en faisant une composition donc, à partir de tous ces éléments sonores que j'ai pu enregistrer. Et c'est ainsi qu'est venu mon catalogue de plantes.
Et par exemple, ce qu'on peut entendre sur le site, on dirait que c'est le vent qui passe à travers un tuyau ou quelque chose de creux.
Oui, sur le site. En fait, le site est trompeur. Le site est trompeur parce que j'ai demandé à un ami qui est violon alto d'intervenir pour donner un fond sonore au site. Et donc, il travaille au violon alto en faisant des sons très particuliers parce qu'en fait, il y a une affinité entre lui et moi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire mon catalogue de plantes, j'étais au Canada, à un lieu absolument magique qui s'appelle le Banff Center for the Arts. Et là se trouvait Vincent Royer, cet ami-là, qui venait développer, en fait, grosso modo la même chose, mais avec son violon alto. Il venait enregistrer toutes les sonorités possibles et imaginables qu'il pouvait obtenir à partir de son violon alto. Et lui, il a fait une composition d'ailleurs qu'il a appelée Chinook, qui est le nom d'un vent, justement, qui est un vent au Canada. On a sympathisé et depuis lors, on reste relativement proche, pas tellement loin, enfin, pas tellement au niveau géographique, mais plutôt au niveau donc,
de l'esprit. L'idée de l'esprit.
Et donc, c'est mélangé, ces sons à lui, au violon alto, sont mélangés à des sons de feuilles, de branches, de choses comme ça.
En tout cas, c'est bien réussi puisque ça m'a bluffé. Je pense qu'on a fait un petit tour. Merci à vous, Bob Verskuren. Je redonnerai, mais on peut donner rapidement votre site. On tape Bob Verskuren.
Verskuren pour les Français.
Verschueren.
Voilà.
Oui.
Point net, mais bon, point peu net. Importe. Avec Google, on peut s'y retrouver.
S'y retrouver. Ce fut vraiment charmant pour vous, votre part, de vous libérer. Et puis pour moi, c'est un grand bonheur d'avoir approché un dixième comme ça de temps votre travail. Merci beaucoup.
Merci.
Avec notre invité Bob Verskuren, nous venons d'entendre de l'album Nose, Virginia Rodriguez dans Canto pra Exu. À la suite de cette interview avec Bob Verskuren, nous écouterons Jacques Villet nous exposant son cheminement de photographe. Écoutons Jacques Villet exposer des photographies en noir et blanc avec ses nuances de gris tout en douceur. Comment est-il présenté?
Alors, dans un texte d'Yvonne Risseler, paru en 2002, elle nous dit « Miroir d'intériorité, les photographies de Jacques Villet, imprégnées de douceur et de nuances, chargées de la pertinence poétique du banal, transportent les vibrations et l'énergie de la matière pour dialoguer, pour relier. Tout à la fois centripète et centrifuge, figurative et abstraite, actuelle et intemporelle, immanente et transcendante, ces images produisent de l'image, génèrent du déplacement, organisent du transfert, irriguent la mémoire, interrogent l'origine et son rapport à l'être pour aiguiser notre sensibilité, pour féconder notre imaginaire.
Il a énormément exposé et entre autres en 1992, une exposition au centre Georges Pompidou à Paris. L'année suivante, il prend part au Encontros de Fotografia de Coimbra, au Portugal. En 1997, il participe à l'exposition La photographie au présent à la Bibliothèque nationale François Mitterrand à Paris. Enfin, en 2000, il collabore à Bruxelles 2000, une ville en photographie, au Centre culturel Le Botanique, Bruxelles, et à l'exposition Voici 100 ans d'art contemporain au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
Jacques Villet, merci beaucoup d'être présent. On peut voir donc une exposition de photographie ici sur le thème de l'envergure du lointain, spécialement préparée pour cette exposition. Et comment tout d'abord vous est venue la passion de la photographie? Que voulez-vous montrer par la photographie?
La passion de la photographie, je crois que je l'ai toujours eue dès ma prime adolescence. Je l'ai gardée comme passion et passe-temps auquel j'étais très attaché, mais j'ai laissé cet intérêt de côté pour faire des études à l'université, après quoi j'ai été lancé dans une carrière comme tout jeune cadre plein d'avenir. Après quelques années, j'ai souhaité, bien que j'ai vraiment beaucoup aimé ce travail que je faisais, je vais dire ironiquement, faire des choses encore plus sérieuses, et j'ai décidé d'être artiste photographe. Je ne savais pas trop dans quoi je me lançais, mais en tout cas c'était la photographie qui m'attirait. Il fallait bien gagner sa vie, et j'avais des ressources pour être un professeur, d'abord dans l'enseignement secondaire, à mi-temps. ce qui me laissait beaucoup de temps libre pour exercer cette photographie. Et par la suite, ça m'est tombé du ciel, je suis devenu professeur de photographie dans une école des beaux-arts. Cette évolution m'a permis de constater que c'était une grande chance que je ne doive pas m'installer comme photographe professionnel, gagner ma vie avec mes photos, sinon j'aurais été dépendant d'une clientèle et beaucoup moins libre, beaucoup moins indépendant. Je dois dire aussi que je suis autodidacte en photographie et pourtant, paradoxalement, je suis devenu prof de photographie suite à une formation de stage, notamment à Arles et aussi ailleurs, un petit peu aux États-Unis comme ça. Ce qui m'a permis aussi de m'orienter vers des activités bien précises en photographie.
Et ces activités bien précises, quelles sont-elles ? J'imagine qu'on doit avoir un œil exercé. Ce que l'on peut voir à travers l'œil
Oui, mais cet exercice de l'œil n'est pas venu comme ça d'emblée. Au début, je photographiais des ombres sur le mur, des personnages dans le parc, des choses comme ça. Travaux que qui sont bien gentils, bien jolis, vu de maintenant. Assez vite, j'étais quand même intéressé par le spectacle de la nature. Et toutefois, je ressentais ça comme un défi, parce que photographier des arbres dans la forêt, que de photos clichés, stéréotypées, ils se trouvent autour de nous. Mais j'ai quand même été de l'avant. J'en avais vraiment beaucoup de crainte des résultats. J'ai été très doucement au début. Et c'est dans ces photographies elles-mêmes que progressivement je me suis découvert. Oui, c'est peut-être un grand mot, mais enfin c'est... Ma voix s'est ouverte de cette manière-là. Et je constatais aussi que j'étais surtout attiré par les choses telles qu'elles sont, pas des choses que j'aurais arrangées moi-même et photographiées ensuite. Faire des mises en scène, par exemple, que j'aurais photographiées. De plus en plus, j'étais convaincu qu'il y a des choses à découvrir dans la nature telle qu'elle est, dans le paysage. Je précise que le paysage, qu'est-ce que c'est ? C'est pas la même chose que le pays. Le pays, c'est ce qui est là présent. Et le paysage, c'est le geste de regarder le pays. Et cette différence est importante parce que regarder le pays, c'est le voir avec son émotion et en tant que photographe, sa sélection. Après tout, c'est bien connu, on ne regarde que ce que l'on a envie de regarder.
Et que ce que l'on connaît. Souvent.
Et que ce l'on connaît, oui, aussi. On peut y revenir dans cette découverte de ce qui se trouve là. Paysage naturel de préférence. Je n'ai rien contre le paysage industriel ou le paysage urbain. Mais je remarquais vite que ces deux autres catégories d'environnement amenaient plus à une confection plus formelle de l'image. Il y a des formes géométriques plus facilement dans des lieux industriels ou urbanisés. Mon défi voulait aller jusqu'aux formes de la nature. Donc, après avoir photographié la forêt, ma foi, ces photos, je les aime encore beaucoup et elles sont toujours bien présentes dans mon catalogue personnel, si je peux dire. Je me suis dit, mais si je quittais cette magie du lieu constitué par la forêt qui était autour de chez moi, une forêt constituée de troncs de hêtres très élevés, un peu comme des colonnes de cathédrale, et des lieux finalement d'intimité. Et s'il n'y avait pas ça ? Alors, je me suis intéressé à la ligne d'horizon. Jusque-là, je ne faisais que voir l'horizon par des interstices entre des troncs d'arbres. J'ai aussi été me coltiner avec le plat pays. Donc, je suis sorti de la forêt et je me suis trouvé devant une ligne d'horizon. plaine de Waterloo, que les Français connaissent malheureusement bien, et aussi tout endroit qui n'est pas montagneux et qui prête plus à un défi que de photographier des belles montagnes comme on voit en Suisse. La forêt, il y avait déjà cette métaphore qui me venait, que j'ai dite, cette élévation qui m'intéressait. Et dans le plat pays, c'est l'horizon lui-même qui me passionnait. Cette ligne d'horizon, à vrai dire, qui n'existe pas, puisque si on avance, l'horizon recule. Mais je voulais photographier l'horizon, et donc je plaçais la ligne d'horizon en plein milieu de l'image, rectangulaire, oblongue. Mais si cette ligne d'horizon qui est là, il faut y amener le regard. Ça pose un problème d'avant-plan, la moitié inférieure du cadre. Mais il ne faut pas que cet avant-plan retienne le regard, puisque c'est vers l'horizon que je veux aller, dans tout le sens qu'on peut prêter, et le sens métaphorique qu'on peut prêter à l'horizon. Donc, je parcourais la campagne. Il a bien fallu le faire en voiture, parce que mon matériel devenait lourd. Je travaille le plus souvent avec des négatifs de grand format, sur trépied, sous un voile noir. C'est passionnant parce que ça prend beaucoup de temps et cette durée de prise de vue, ça m'intéressait de pénétrer psychologiquement dans le pays pour en faire un paysage. Si une ligne d'horizon m'intéressait, qui se présentait sans point de focalisation tel qu'un château d'eau, un clocher d'église ou quelque chose de trop marquant, mais plutôt comme, si on peut dire, une ligne d'écriture, c'est pas tout à fait une écriture, mais soit, qu'on peut parcourir comme ça. Une fois trouvé cet horizon, il faut trouver cet avant-plan pas trop marquant, mais qui amène le regard, donc reculer trouver ça à 100 mètres près s'il le faut, mais aussi ce qu'il y a au-dessus de la ligne d'horizon. On me disait souvent, ah, quel beau temps vous avez ici, quel beau soleil, mais moi ça ne m'intéressait pas du tout, il n'y avait pas un seul nuage. Attention, trop de nuages, c'est me relancer dans le spectacle des paysagistes flamands du XVIIe siècle, avec des nuages très marquants. Je ne voulais pas trop de ça, puisque je voulais parler de la ligne d'horizon. Donc c'était toute une distillation du sujet. Voilà, donc il en est sorti d'ailleurs un premier livre appelé « Esco source océan », parce que pour des raisons plus personnelles, ben, ça a été réduit, je me suis limité à ce territoire-là, grâce au fait que ma sœur Michèle Villet a écrit un texte. Elle était en train d'écrire un texte sur la région de l'Esco, et moi, cette région-là m'intéressait. Après cette aventure qui a duré bien une dizaine d'années, qui a été couronnée, sans que je m'y attende du tout, par l'édition d'un livre très bien imprimé, j'en étais ravi. Ah oui, je voulais dire au passage que le format de l'image imprimée, quand j'ai fait mes premiers essais, ayant choisi sur les planches contact les photos qui finalement pouvait correspondre à ce que j'avais en tête. Alors je me suis dit, je vais faire une grande photo, comme ça on voit bien le détail. Eh bien, j'ai très vite compris qu'il n'y avait aucun intérêt de faire une photo de grand format et de tout voir. J'ai essayé, j'ai été très vite convaincu d'imprimer ces vastes paysages en un petit format, on va dire, 12 sur 15 cm ou quelque chose comme ça. Tant mieux, je dirais, si on ne voit pas toute la ligne d'horizon. On la devine, on la sent et on sent qu'il y a quelque chose. J'ai oublié de dire aussi pourquoi cette région de l'Escaut. Je voulais qu'il y ait certains objets sur la ligne d'horizon. Par exemple, l'estuaire de l'Escaut, c'était parfait. On pouvait finalement deviner qu'il y a quelque chose. Et ces idées-là m'intéressaient aussi. Il y a quand même quelque chose. Autre métaphore. Mais je ne voulais pas non plus inférer une signification précise à mes photos. Pas de titre. Je ne veux pas donner un titre à mes photos, sinon ça oriente le regard. Or, justement, c'est contempler le pays en un paysage en tant que spectateur libre d'y voir ce qu'il veut. Après cette aventure, de cette ligne d'horizon, j'ai trouvé que décidément, il y avait beaucoup à faire dans ce qui se présentait naturellement, sans intervention devant mes yeux. Voilà que certains jours, comme il se mettait à pleuvoir, je me suis dit, tiens, dans le fond, ma table petit-déjeuner, c'est peut-être un spectacle tout à fait intéressant. J'ai fini par comprendre que c'était un paysage, je l'ai vu appeler un paysage domestique, et voilà que j'ai photographié ma table de petit-déjeuner, sans idée préconçue. J'ai continué aussi dans cette voie-là, en me disant, ça tombe bien, il pleut, je vais disposer des choses sur la table, et plein de photos de paysages comme ça. Ça ne marchait pas du tout, pas du tout. J'ai vite senti que c'était artificiel de faire semblant de déposer comme ça des objets sur la table. Ça ne marchait pas du tout. Il n'empêche que le hasard m'a permis de constituer une petite série d'une dizaine d'images que j'aime beaucoup de ces coins domestiques. Jusqu'au jour où, ayant constaté mon incapacité d'arranger les photos et de me confirmer dans l'idée qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont, et ayant renoncé à cette idée-là, j'étais quand même énervé par le spectacle d'une pomme ou d'un objet qui était là précis. Je me dis, j'aurais quand même bien photographié cette poire ou cette pomme ou que sais-je. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et des deux mains tremblantes, j'ai été la mettre, c'était contradictoire, j'ai quand même été la déposer moi-même sur, sur ma table de travail, mon bureau. Enfin, il fallait quand même pas être distrait par le porte-plume ou je sais pas quoi. Donc j'ai mis un papier, le papier que j'avais sous la main. Après ça, j'ai vu ce que j'avais fait et j'ai pas compris tout de suite que c'était tout à fait intéressant. Il m'a fallu peut-être 2-3 ans pour regarder ces photos. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça doit mûrir. Vu que je ne photographie pas vraiment les événements et je ne relate pas quelque chose de temporel, c'est toute une interprétation progressive qui se fait. J'ai abouti finalement à une série qu'on appelle « nature morte » et qui est un mot bien malheureux. L'expression anglaise est tellement plus intéressante. Ce sont des objets vivants, en quelque sorte. Et ça m'a découvert aussi une autre pénétration, je dirais, dans le spectacle devant moi. Autant je pénétrais aussi dans le paysage et dans toute sa signification, dans un nouveau regard, autant dans les objets, fussent-ils les plus banals, une pomme, une poire, des navets, n'importe quoi. Pas n'importe quel objet, finalement, mais ça, c'est une autre affaire. Je ne sais pas pourquoi. Ces objets me faisaient penser que, finalement, ce que j'apprécie dans, je ne vais pas dire la photographie, mais dans ma photographie, dans ce que je fais, ce que je cherche à faire, c'est rendre présent les objets, ou plutôt trouver une autre présence. Du coup, je me suis mis à penser, à réfléchir, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir à toute cette philosophie-là, du rapport entre l'objet et son image. L'objet et l'image. Que de choses il y aurait à étudier là-dessus, mais j'en viens pour le moment à penser que, une fois que l'image, mon image, avec mon regard, est faite, c'est en quelque sorte un nouvel objet, indépendant de ce qui a été fait. Et donc, après cette série de paysages domestiques, ce que j'ai appelé des paysages domestiques, nature morte, voilà que je suis retombé à nouveau dans le paysage naturel, mais dans d'autres circonstances. Le hasard ou les circonstances ont fait que je me suis retrouvé dans des pays nordiques, plus exactement sur la mer Baltique. En voyant un certain coin de paysage, je me suis dit, ça me fait penser à un tableau de Caspar David Friedrich. Je trouvais que la nature ressemblait tellement au tableau de Caspar David Friedrich que rien que pour montrer aux copains, j'ai photographié des branches d'arbres tout à fait tordues, 100 mètres plus loin, de nouveau la même chose. Et j'ai été subjugué, je dirais, par cette histoire qui est précisément lieu d'exercice de ce peintre romantique du début du 19e. Et ça m'a du coup introduit dans une vision de l'espace, j'ai progressivement découvert que c'était tout à fait à l'opposé de la vision classique, tant de la Renaissance, la vision italienne d'un paysage cadré, conçu, composé, un peu comme si c'était une pièce de théâtre et que j'étais le spectateur devant un cadre, une pièce de théâtre. Là, je me trouvais maintenant dans une sorte de balayage de l'espace dans lequel je ne composais plus, comme j'avais fait avec ce travail sur la ligne d'horizon, en mettant d'office l'horizon au milieu. Mais là, je promenais le cadre de l'appareil photographique à travers tout l'espace et je m'arrêtais quand ça m'intéressait, acceptant des choses que je regarde, mais aussi des choses que je ne regardais pas. Tout vient dans le cadre. Et c'était une autre manière de recevoir l'image. Là aussi, ça aboutit à un travail que j'aime bien, qui s'appelle « Le bord du jour ». Après ce travail, je pourrais peut-être parler des photos de cette exposition-ci.
Me condenan y a vivir sin tu querer me castigarán. En silencio he de arrastrar esta cruel pena por poder acariciar tu linda cara. Y aunque digan que eres amor ajeno, sé que nunca tus labios me han mentido. De tu vida me da todo lo bueno y te quiero como a nadie había querido. Tú serás mi amor inolvidable. Entre los dos jamás vendrá el olvido. Y aunque existan abismos insalvables, tú serás mi sueño prohibido. Aunque tenga que pagar con llanto eterno el delito de haberte querido. Mi amor inolvidable, entre los dos jamás vendrá el olvido. Y aunque existan abismos insalvables, tú serás mi sueño prohibido. Aunque tenga que pagar con llanto eterno el delito de haberte querido.
FM 97.1 avec notre invité Jacques Villet. Pour finir, nous venons d'entendre Eliades Ochoa y el Cuarteto Patria qui joue dans Mi Sueño Prohibido de l'album Sublime Illusion.
Un ensemble de photos, j'ai découvert aussi, c'est un petit peu comme quand on enfile un collier de perles. Au début, on prend une perle, ça. Moi, je fais une photo, elle est pas mal. Mais on ajoute une deuxième perle et puis une troisième. Et puis, l'idée vient progressivement. Et l'ensemble, la série, donne sens aux premières photos qu'on a prises. Ici, pour cette exposition, pour laquelle, faute de mieux, j'ai donné le titre « L'envergure du lointain », peut-être pas l'idéal, mais soit. La première perle que j'ai mise, c'est cette photo qui est là, sous nos yeux, qui était prise dans une chaîne de montagnes, dans le Sinaï, hein, que j'ai faite comme ça parce que l'espace, enfin l'ambiance m'intéressait. Puis tout bêtement aussi parce que c'était l'aboutissement d'une promenade en montagne et que je tenais aussi à le montrer aux copains. Hein. Ça ne m'en est pas resté là. Et je pense aussi à une autre photo, une autre deuxième perle de photos que j'avais faite précédemment et qui était issue d'une très longue marche à pied. Là, c'était dans la meseta en Espagne, où l'espace qui est là devant moi, la plaine qui se dégageait là, me donnait l'impression d'accessibilité. Et forcément, elle était accessible, puisque après ça, j'y pénétrais à pied et je me retrouvais peut-être 2 jours après à l'horizon de ce que j'avais vu. J'avais le même sentiment aussi avec cette photo du Sinaï. Quelque chose dans le lointain, la matière du lointain m'intéressait beaucoup. Alors, est venu comme ça, progressivement, et puis même l'incitation de cette invitation qu'est-ce que je vais prendre ? J'ai donc réuni finalement 5, 6, et puis 7, 8, et puis 10, et puis peut-être encore d'autres, où il y a toujours cette question du lointain, mais compris autrement, non plus une ligne d'horizon que je voulais lire comme dans Esco sur l'océan, mais quelque chose qui montrait l'épaisseur de l'air et de la brume qui me sépare de ce lointain que j'ai envie de presque de toucher et qui a donc une certaine profondeur. J'ai bien dû, c'était difficile de dire la profondeur du lointain, je dis l'envergure du lointain, peu importe. Et voilà comment s'est constitué cet ensemble. Si on fait la comparaison entre un poète et un romancier, écrire de la prose, c'est mettre par écrit une idée qu'on a en tête. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tous les poètes, mais le poème se révèle quand il est écrit. On n'en dirait pas autant du roman ou de la prose. J'ai envie de dire la même chose de mes photos. Elles ne prennent pour moi un sens que quand elles sont faites. Je ne veux pas dire que je photographie n'importe quoi et puis on verra, mais il y a peut-être un petit peu de ça. J'aimerais bien parler aussi du cadrage et de la technique. Dieu, qu'est-ce que c'est important, cette technique. Finalement, comme disait quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Jean-Claude Lemagny, de la Bibliothèque nationale française, il disait, en art, le seul problème, c'est la technique. Parce que, tout simplement, le reste, qui est très important, n'est pas un problème. Il vient tout seul. Donc, je ne me suis occupé, un peu comme Bob Verskuren acceptant le vent, les couleurs, le vent, la dispersion, sous l'effet de la colère, comme il a dit, de ses pigments. Je me suis mis à recevoir le paysage tel qu'il était. On reçoit une photo, on ne la prend pas, comme disait aussi un autre grand photographe. Je ne m'occupe, si je peux dire, que de ça, le reste vient tout seul. Donc, j'ai sérieusement étudier la manière d'enregistrer la lumière sur la pellicule. Et la lumière a pour effet non pas seulement de faire du blanc et du noir, mais c'est du blanc, gris et noir. Et toute la gamme de gris, la musicalité, un rapport peut-être à la musique, révèle pour moi beaucoup de choses aussi. J'en étais tellement enthousiaste de ce plaisir de jouer des gammes de gris dans ma chambre noire. J'ai fini par l'enseigner. On m'a invité à me dire, mais comment tu fais ? Oui, c'est peut-être complexe, mais enfin, non, pas si complexe que ça. C'est finalement le mécanisme de la photographie. Je vais dire un mot du cadrage, qui est fondamental aussi. Ça fait partie de la technique et de l'appareil photographique. C'est essentiel de trouver le point de vue. Le point de vue conditionne toute la perspective. C'est pas se déplacer, c'est pas utiliser un zoom qui change quelque chose. C'est le point de vue qui détermine la perspective. Le zoom ne fait que grossir l'image. Et le cadrage, c'est très important. De là, la patience que je prends le temps que je prends à me trouver sous le voile noir devant mon verre dépoli, qui est un peu comme une petite chapelle lumineuse. Ça m'arrive parfois de recadrer aussi les négatifs que je prends. Le cadrage n'est pas, comme le veut Henri Cartier-Bresson, intouchable, tant pis. Vous m'avez aussi posé la question du numérique.
Oui, parce que effectivement, là, vous êtes dans ce, comme vous l'avez expliqué, le noir, le blanc, le gris, c'est vraiment des nuances très 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 fines.
Oui.
Mais en même temps, quand vous dites paysage, quand je vois votre exposition ici, me vient le mot, c'est peut-être ridicule, mais de visage.
Ah ben, c'est pas ridicule du tout, c'est très intéressant.
Paysage, visage, on voit les rides du paysage, et, enfin, comme un visage. Si on regarde bien un visage, on voit le vécu, et c'est un peu ça. Et il me semble également que ce qu'on voit dans l'image, il n'est pas forcément perçu à l'œil nu.
Ah, exactement, exactement. La photo révèle, c'est d'ailleurs très intéressant ce mot « révélateur » dans une chambre noire. Et justement, c'est ce qui m'attache énormément au processus photographique. On me demande souvent, évidemment, numérique, argentique. On fait de très bons résultats avec des procédés numériques. Mais ce que je ressens le plus, c'est dans la confection de l'image. On peut avoir d'aussi bons résultats par des procédés d'impression numérique que argentique. Mais être dans l'intimité d'une chambre obscure et de voir apparaître dans la bien-aimée photographie, dans le lit, révéler progressivement, c'est une émotion qui m'est très précieuse. Donc, pour tout dire, ça m'arrive aussi de faire des travaux par un procédé numérique. Mais c'est marginal pour moi. Je l'ai fait surtout dans des cas de photographie en couleur. Ça aussi est une autre question. Noir et blanc, couleur. La couleur, je trouve, mes photos sont la plupart du temps en noir et blanc. J'ai rien contre la couleur et ça peut être tout à fait bien, mais c'est encore plus difficile. J'ai l'impression que la couleur habille les choses. Elle reste à la surface. Elle est trop réaliste, peut-être. Le noir et blanc met plus accent sur les lignes, les formes et finalement la profondeur du paysage. Je n'ai utilisé, puisque je parlais de ça, de procédés numériques que pour des moments, des sujets où la couleur faisait partie de mon propos.
Et maintenant, vous êtes arrivé au paysage, ou bien vous alternez dans votre travail. Où en êtes-vous
Mais tantôt, vous avez dit vraiment cette idée très intéressante. Le paysage, c'est comme un visage avec ses rides, etc. Figurez-vous qu'après avoir ressenti cette nécessité, j'ai, pour certaines circonstances, dû faire le portrait des gens. Encore, quel défi, mais de nouveau, ça me semblait très difficile. Mais c'est à traiter un peu comme un paysage, on le reçoit, et puis il n'y a pas de chichi à faire. Je mets le personnage devant moi, et je m'occupe de que le temps de pose soit bon, de technique. Cette technique incluant aussi l'environnement. Devant quoi je place le personnage? N'y a-t-il pas dans le décor une ligne qui lui sort de l'oreille et qui lui rentre par... Donc il faut faire attention à finalement tout ce qui n'est pas le visage. Et je me suis parfois senti bien à l'aise dans des portraits, au point que parfois j'en ai exposé, que ça marche bien, mais c'est toujours la main tremblante que je l'ai fait.
Voilà. De faire un portrait, c'est reçu comme écouter sa voix. Soi-même, on se voit devant un miroir et de voir le portrait. Et puis en noir et blanc, il y a une douceur plus qui définit mieux l'intérieur que l'extérieur quand c'est en noir et blanc, il me semble.
Oui, attention, généralisation, mais peut-être, oui.
Parce qu'on fait plus attention à l'être et à l'expression que aux couleurs.
C'est possible, mais là je suis plus prudent parce que je n'ai pas de l'expérience immense du portrait, mais ce que j'ai fait, notamment des portraits d'enfants et de voir leur croissance année après année, est tout à fait passionnant.
L'émission se termine. Merci Jacques Villet et Bob Verskuren. Merci
Dan. Belle balade. Merci.
Merci Dom et merci Laurent, et à très très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Bye bye.
Bye.